La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Eh bien bonjour chers auditeurs, auditrices, je suis Patrick Saporito et je continue mon parcours du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui nous verrons les chapitres 14 à 16 et nous verrons qu'il ressort de ces textes que Dieu est digne d'adoration. Premièrement à cause de son pardon immérité sur les croyants indignes de sa grâce et deuxièmement à cause de son jugement mérité sur les incroyants dignes du jugement. Premièrement voyons Dieu est digne d'adoration à cause de sa grâce imméritée sur les croyants indignes de sa grâce. Après ce qu'on pourrait appeler une parenthèse présentant la contrefaçon de la Trinité divine avec le trio dragon, bête et faux prophète, vient le temps de la fin du jugement de Dieu, avec les sept coupes de sa colère. Le but du chapitre 14 est de fortifier les chrétiens nés de nouveau de tous les temps pour qu'ils persévèrent jusqu'au bout sans compromis, connaissant les derniers jugements qui s'abattront sur la terre à la fin du règne de l'Antéchrist. Je poursuis ma lecture au chapitre 14, les versets 1 à 5, et je ferai la lecture au fur et à mesure de ma prédication. Chapitre 14, donc versets 1 à 5 du livre de l'Apocalypse, dans la Bible. « Je regardais, et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » J'entendis du ciel une voix, comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre, et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de harpe jouant de la harpe. Ils chantent un cantique nouveau, devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Ils sont irréprochables. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu pour le moment. Avant que Dieu ne déverse sa colère, on assiste à l'adoration au ciel de 144 000 personnes qui chantent devant le trône de Dieu un cantique nouveau que seuls eux pouvaient apprendre. Qui sont-elles, ces 144 000 personnes? Eh bien, elles ont été rachetées de la terre et sont les prémices pour Dieu, versets 3 et 4. Ici, je crois que ce chiffre est symbolique. Toute personne juive ou non juive qui croit que Jésus, l'agneau de Dieu, a versé son sang pour elle, a été rachetée de la terre. Et l'Église de Jésus-Christ est déjà les prémices pour Dieu et pour l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, son Fils. Ces 144 000 portent sur leur front le nom de l'agneau, Dieu le Fils, et le nom de Dieu, son Père. En contraste avec le nom de la bête sur les incroyants, tout chrétien a reçu sur son front la triple marque de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça doit donc se voir dans notre vie, car Dieu le Père rend témoignage à Dieu le Fils par Dieu le Saint-Esprit qui nous conduit. Est-ce que c'est marqué sur votre front que vous êtes chrétien, chrétienne, que vous appartenez à Jésus-Christ parce que vous cherchez à lui ressembler? Il est dit de ces chrétiens qu'ils sont vierges. Bien sûr, les relations sexuelles sont bonnes, car voulues par Dieu, mais à l'intérieur du mariage. Ici, vierge est donc à prendre au sens spirituel pour désigner quelqu'un qui a gardé sa chasteté spirituelle en adorant le seul vrai Dieu. Quelqu'un qui n'a pas commis adultère spirituel avec l'Antéchrist dans l'idolâtrie et l'immoralité de Babylone. Parce que l'Église, qui est la fiancée de Jésus-Christ, est appelée à lui rester fidèle pour être glorifiée avec lui. L'apôtre Paul disait dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2, je cite, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Fin de citation. Ils suivent l'agneau où qu'il aille, même dans la souffrance et donc dans la gloire. Marcher à la suite du Seigneur, c'est marcher sans partage dans la droiture, la justice et la vérité, loin du mensonge. C'est être irréprochable. Vous avez du mal à vous retrouver dans ce portrait? Pourtant, c'est ce que Dieu fera de tout chrétien. Je cite la première lettre de Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Fin de citation. Alors ne focalisons pas avec crainte sur les dures persécutions à venir, mais c'est en gardant les yeux fixés sur Jésus que nous serons capables de le suivre. Lui qui n'a jamais menti, qui est irréprochable, rendra semblable à lui tous ceux qui auront cru en lui comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Et nos vies transformées servent non seulement à nous démarquer du monde, mais aussi à attirer les non-croyants à Jésus-Christ par notre témoignage de vie. Et notre témoignage non seulement devrait se lire sur notre front, mais aussi s'entendre de nos lèvres par l'annonce de l'Évangile. Lisons donc la suite du chapitre 14, les versets 6 à 13 du livre de l'Apocalypse. « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un autre, un second ange, suivit, disant « elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. » Un autre, un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte « si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent. » « Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Amen donc jusqu'ici la parole de Dieu pour le moment. À cette période bien précise du règne de l'Antéchrist, Dieu envoie un dernier avertissement aux incroyants par l'intermédiaire de trois anges. Un ange annonce un évangile aux habitants de la terre à l'heure de son jugement qui est venu. Y a-t-il plusieurs évangiles ? Non. Évangile veut toujours dire bonne nouvelle. Il s'agit toujours du seul évangile de grâce, celui qui est éternel, nous dit le texte, le salut par la foi seule en Jésus-Christ. Mais l'évangile, c'est aussi avertir les incroyants du danger de la mort éternelle lors du jugement dernier. L'évangile met les hommes devant un choix crucial : craindre Dieu et lui rendre gloire, ou adorer la bête et son image et tout ce qui s'oppose à Dieu. L'annonce de l'évangile de grâce devrait être inséparable de l'annonce du jugement terrible qui attend les non-repentis. Lorsque les hommes n'ont pas reçu l'évangile annoncé par des hommes, Dieu envoie son ange pour l'annoncer. Et justement, après cette annonce de l'évangile, un second ange annonce cette fois par anticipation le jugement certain de Babylone la Grande, puis troisième et dernier avertissement par l'intermédiaire du troisième ange qui prévient que si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit sa marque, il boira, comme Babylone, du vin de la fureur avant d'être tourmenté pour toujours, jour et nuit, en enfer, verset 11. Dieu aura tout fait pour éviter aux hommes l'enfer en annonçant par des anges l'évangile éternel, le jugement certain de Babylone à venir et le risque de souffrir en enfer pour les idolâtres. De toute façon, tout le monde souffre, autant que ça soit temporairement pour Dieu et pas dans des souffrances éternelles de l'enfer. Ceux qui iront en enfer éternellement auront choisi d'y aller et n'auront aucune excuse. Dieu est juste dans son jugement. Cette période sera très difficile à vivre et pourtant certains chrétiens persévéreront jusqu'à la fin, parfois au prix de leur vie, pour fuir l'idolâtrie et l'immoralité à son comble pendant cette période. Ils se démarqueront d'un christianisme tiède dans lequel il est facile de se complaire aujourd'hui. S'il sera possible de rester fidèle au Seigneur dans une période aussi troublée que celle de l'Antéchrist, c'est qu'il nous est possible de l'être déjà maintenant, nous qui sommes chrétiens. Alors, autant se préparer dès aujourd'hui à être consacré entièrement au Seigneur Jésus avec une vie d'obéissance exemplaire. Nous, les chrétiens, sommes invités à vaincre la bête déjà maintenant par une vie sans compromis. faites de bons choix, à refuser l'à peu près du 666, le chiffre de la bête, pour viser la perfection du 777. Dans notre travail, notre vie de famille, notre vie tout court. C'est en regardant à Jésus et à son obéissance parfaite pour nous que nous pouvons y arriver. Dieu a tenu à ce que ces textes soient écrits pour encourager les chrétiens de tous les temps à garder les commandements de Dieu dans la persévérance et la foi en Jésus. Il a ordonné à l'apôtre Jean, je cite le verset 13, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Fin de citation. On meurt dans le Seigneur comme on a vécu dans le Seigneur, unis à lui, c'est-à-dire heureux. Alors, pas de raison d'avoir peur de la mort pour le chrétien. Les chrétiens morts dans le Seigneur sont en train de se reposer de leurs œuvres. Nous sommes sauvés par la foi seule en Jésus-Christ, pas par nos bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voir Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Puisque c'est lui qui nous précède et pas l'inverse, alors suivons-le. Et tout ce que nous faisons pour le Seigneur sera récompensé. Un mot gentil, un don, l'hospitalité, la disponibilité, une oreille attentive envers ceux dans le besoin. Toute prière, toute parole de témoignage faite en Jésus-Christ. Et si nous le suivons, nos œuvres nous suivront. Elles perdureront même après notre mort. Alors travaillons pour ce qui dure. Attention, ça ne veut pas dire que les autres métiers « moins spirituels » entre guillemets ne sont pas importants. Les boulangers font du bon pain pour nous donner des forces, par exemple. Je continue la lecture du chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, versets 14 à 20. « Je regardais, et voici une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête et une faucille tranchante à la main. Un autre ange sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, l'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille tranchante. Un autre ange qui avait pouvoir sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la fureur de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Amen jusqu'ici la parole de Dieu pour le moment. J'aimerais vous poser une question, est-ce que vous préféreriez être moissonné ou vendangé d'après ces textes ? L'Église de Jésus-Christ est à la fois ceux qui sont moissonnés et les moissonneurs qui annoncent l'Évangile. Notre mission dans la moisson est d'annoncer l'Évangile. À la fin du monde, les moissonneurs sont tantôt les anges, voir Matthieu chapitre 13 verset 39, tantôt le Seigneur lui-même, comme c'est très probablement le cas ici au verset 14. Le Fils d'homme venant sur les nuées et avec une couronne et une faucille. Une voix sortie du temple lui dit « L'heure est venue de moissonner, verset 15. Quand sera cette heure? Quand toute la terre aura entendu l'évangile, annoncé à la fin par un ange comme on l'a vu. La moisson sont les derniers chrétiens vivant à cette époque qui seront réunis aux autres déjà au ciel. Ensuite vient la vendange, le jugement des incrédules qui ont versé le sang des croyants. Les prières des martyrs sous l'autel qui réclamaient justice sont exaucées ici. La grande cuve de la fureur de Dieu pleine de sang est foulée hors de la ville. C'est un juste retour pour Jésus qui a aussi versé son sang hors de la ville de Jérusalem selon Hébreux chapitre 13 verset 12. La justice de Dieu est manifestée à la fois dans sa grâce envers les pécheurs repentants qui placent leur confiance en Jésus pour leur salut et aussi dans ses jugements pour les autres non repentis qui ont refusé cette grâce. Pour cette raison, Dieu est digne d'adoration, non seulement pour sa grâce imméritée sur les croyants, mais aussi, et c'est mon deuxième point, à cause de son jugement mérité sur les incroyants. Lisons le livre de l'Apocalypse, chapitre 15, les versets 1 à 8. « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, sept anges qui tenaient sept plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. » Et je vis comme une mer de cristal, mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal. Ils tiennent les harpes de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Après cela, je regardais, et le sanctuaire du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les sept anges qui tenaient les sept plaies sortirent du sanctuaire. Ils étaient revêtus d'un lin pur, éclatant, et portaient des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la fureur de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le sanctuaire fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que les sept plaies des sept anges soient achevées. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu pour le moment. Sept anges dans le ciel tiennent sept plaies à envoyer sur la terre, les derniers jugements de la colère de Dieu. Avant qu'il ne tombe, Jean a la vision des vainqueurs de la bête, ces chrétiens victorieux, morts en martyrs, ayant résisté à la corruption générale, ayant refusé d'adorer l'Antéchrist, et qui sont restés fidèles dans leur témoignage. Ils chantent deux cantiques de délivrance. Celui de Moïse, lorsque Dieu avait délivré son peuple de l'esclavage des Égyptiens, voir le livre d'Exode, chapitre 15, versets 1 à 2. Et le cantique de l'agneau, qui raconte une délivrance encore plus extraordinaire, celle que Jésus a obtenue sur le mal par sa mort et par sa résurrection. Une application pour tout chrétien, eh bien, c'est un encouragement pour nous à louer Dieu, déjà maintenant pour son salut en Jésus-Christ, plus merveilleux que la délivrance miraculeuse d'Égypte que nous n'avons pas vécue lorsque Dieu a ouvert la mer morte en deux. Pas de souci si vous trouvez que vous ne chantez pas assez bien. Louer Dieu, c'est continuer de lui faire confiance en tout temps et proclamer que ses voies sont justes et vraies, même lorsque le chrétien est victime d'injustices qu'il ne comprend pas. Après la vision d'adoration, Jean a la vision du temple, le sanctuaire du tabernacle ouvert dans le ciel. Sept anges avec sept plaies en sortent et reçoivent les sept coupes de la fureur de Dieu. Les derniers jugements définitifs à venir sur la terre sur tous les ennemis de Dieu. Le sanctuaire est alors rempli de la gloire de Dieu et restera fermé jusqu'à ce que les sept plaies soient achevées. Après le temps de la grâce où nous sommes encore, aujourd'hui, eh bien plus aucune intercession ne pourra retarder ou stopper la colère de Dieu à ce moment précis. Une application pour nous chrétiens est de prier pour le monde, pour les perdus. Proclamons le temps de la grâce en Jésus-Christ où nous sommes encore avant que ne vienne le temps de sa colère. La colère de Dieu est juste envers les inconvertis non repentants et est inséparable de sa grâce envers ses enfants. Êtes-vous souvent en colère? Il y a deux sortes de colère. Celle centrée sur nous-mêmes, sur nos intérêts égoïstes non satisfaits, sur notre frustration. Il convient de se repentir de cette colère pour s'en débarrasser. Et puis, il y a une saine colère qui est celle de Dieu face à l'injustice, au mensonge. Si vous ressentez une saine colère, ne culpabilisez pas, au contraire, remettez-la à Dieu pour bien la gérer. Il vous comprend. Cette colère-là, loin d'être centrée sur nous-mêmes, doit nous amener à rechercher le bien des personnes qui agissent mal pour qu'elles s'approchent de Dieu. Ça veut dire prier pour elles et peut-être aussi oser les confronter pour leur bien. Pourquoi agis-tu de la sorte? Pas facile quand c'est dans la famille ou même dans l'église de Jésus-Christ. Voyons les sept coupes de la colère de Dieu, les derniers jugements sur les personnes ayant la marque de la bête. Je lirai le livre de l'Apocalypse, chapitre 16 et les versets 1 à 21. J'entendis une voix forte qui venait du sanctuaire et qui disait aux anges, « Allez, versez sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu. » Le premier partit et versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux atteignit les hommes qui avaient la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Le second versa sa coupe dans la mer, qui devint du sang, comme celui d'un mort, et tous les êtres vivants moururent, ceux qui étaient dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau. Ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux dire, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, d'avoir exercé ces jugements. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. Et j'entendis l'autel dire « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses plaies. Et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut obscurci. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et l'eau en tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air. Il sortit du sanctuaire une voix forte qui venait du trône et disait « C'en est fait !» Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a pas eu de si grand depuis que les hommes sont sur la terre. La grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle, dont les grelons pesaient environ un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, parce que cette plaie était violente à l'extrême. Amen, donc jusqu'ici la parole de Dieu. Cette plaie, donc, qui rappelle les plaies d'Égypte, voir Exode chapitre 9. Ulcères, eau changée en sang, ténèbres, grenouilles, tonnerres, grêle et feu du soleil brûlant. Ici, il n'est pas question de réchauffement climatique, mais de plaies envoyées par Dieu qui a autorité sur ces plaies, nous est-il dit au verset 9. La différence avec les sept trompettes, où il était question de jugement sur un tiers de la terre, ici, tous les êtres vivants sont touchés et tous les éléments la terre, la mer, les fleuves et même l'air sont touchés. Pas d'abri possible. C'est la fin de la patience de Dieu. Tout ce en quoi les hommes se confiaient pour le remplacer s'écroule avec Babylone. Système économique, politique, religieux, technologique, fausses idéologies. Avant d'aller à la croix, Jésus avait prié en Luc chapitre 22, verset 42, je cite « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Fin de citation. Jésus a bu la coupe de notre jugement en versant son sang. Ceux qui auront versé le sang des chrétiens boiront le sang qui aura remplacé l'eau potable des fleuves. L'homme fonctionne au mérite. Eh bien, l'incroyant qui aura refusé la grâce divine imméritée n'aura que ce qu'il mérite, le jugement divin. Au verset 5, l'ange des eaux loue Dieu pour sa justice, même dans ses jugements sanglants. Oui, Dieu est digne d'adoration aussi à cause de son jugement mérité sur les incroyants. Le jugement de Dieu est véritable et là, il n'y aura pas de contrefaçon. Justice est rendue aux âmes des martyrs sous l'autel qui avait attendu patiemment. Par trois fois, il est dit que les hommes blasphémèrent. Verset 9, lorsqu'ils brûlaient sous la chaleur torride de la quatrième coupe. Verset 11, lorsqu'ils se mordaient la langue de douleur lors de la cinquième coupe qui obscurcissait encore plus le royaume déjà obscur de la bête. Et verset 21, lorsque les grelons de 45 kilos leur tombent dessus à la septième coupe. Voilà où mène la non-repentance, à blasphémer Dieu. À la fin des temps, il n'y aura que deux catégories de personnes. Ceux qui adoreront Dieu pour son salut gratuit en Jésus-Christ et ceux qui le blasphémeront à cause de son jugement, endurci dans leur non-repentance et leur souffrance. C'est maintenant qu'il faut choisir son camp, parce que ne pas choisir, c'est laisser son cœur s'endurcir, comme lorsque Dieu a endurci Pharaon au fur et à mesure qu'il résistait aux plaies qu'il lui envoyait. À la sixième coupe, Dieu laissera les rois non-croyants se laisser séduire par trois esprits de démons pour se rassembler contre lui pour le combat d'Armageddon, sursaut d'orgueil. Avant la septième et dernière coupe qui va tomber sur Babylone, Jésus dit, verset 15, « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Fin de citation. C'est une exhortation pour les chrétiens de tous les temps à ne pas se laisser séduire et à veiller pour se garder pur déjà maintenant, parce qu'à la fin, l'immoralité et l'idolâtrie présentes dans Babylone seront à leur comble. Ce n'est pas symbolique. Aujourd'hui, la pornographie est déjà à la portée de tous par un seul clic sur Internet. Au verset 5, Jésus est appelé « Toi qui es et qui étais ». Il est loué pour exercer le juste jugement de la colère de Dieu. Le « c'en est fait » du verset 17 marque la fin du jugement certain de Babylone à la septième coupe. Mais aujourd'hui, Jésus est celui qui est, qui était et qui vient, parce qu'il n'est pas encore revenu. Il a dit « tout est accompli » en mourant sur la croix, évangile de Jean chapitre 19 verset 30. Mais là, il parlait de son œuvre de salut et de pardon parfaitement achevée. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Jésus invite encore, tant qu'il est temps, tous ceux qui ne l'ont pas fait à se tourner vers lui dans la repentance et la foi pour être pardonnés et sauvés de leurs péchés. Amen.
Apocalypse, chapitre 22, versets 12 et 13.
Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre, à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier